France Culture.
Le journal est signé Nicolas Ballu. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Ce soir, le chef de la junte birmane appelle tout pays, toute organisation à venir porter secours aux victimes du tremblement de terre qui a secoué la Birmanie et les pays alentours. Le bilan provisoire est d'environ 150 morts. Vous entendrez le témoignage d'un Américain à Bangkok et Isabelle Labéry nous expliquera les fragilités de la Birmanie, un pays très fermé. Frappe israélienne au sud de Beyrouth après 4 mois de trêve entre Israël et le Hezbollah. Ces frappes font le jeu du Hezbollah, condamne ce soir Emmanuel Macron. La guerre commerciale version franco-chinoise, les autorités de Pékin acceptent de faire un geste sur les droits de douane visant le cognac français. Explication de Sébastien Berriot dans ce journal. Le gouvernement français présente sa réforme de la formation initiale des enseignants. Réforme souvent annoncée et toujours repoussée au fur et à mesure des aléas politiques causés par la dissolution de l'Assemblée nationale. Alexis Kohler à la Société Générale, c'est officiel, oui, mais l'annonce est faite par la banque elle-même avant l'avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Les images qui existent du séisme qui a frappé la Birmanie, mais aussi la Thaïlande et a été ressenti en Chine, donnent une idée de sa violence et du chaos qui en résulte. Un tremblement de terre de magnitude 7,7 sur l'échelle de Richter. Il s'est produit à 16 km au nord-ouest de la ville birmane de Sagaing. La Birmanie, on y revient dans un instant. Je vous propose d'écouter tout d'abord ce témoignage à Bangkok, la capitale thaïlandaise placée en état d'urgence par les autorités. Bangkok, une mégalopole de près de 20 millions d'habitants. Il était l'heure du déjeuner et Joseph Siprout, un Américain, était dans son hôtel au centre de la capitale au moment du séisme.
J'ai vécu à Los Angeles et aussi à Istanbul, en Turquie. J'ai connu pas mal de tremblements de terre, mais celui-ci m'a semblé être le plus long de tous. La pièce n'a pas cessé de balancer d'un côté à l'autre pendant presque 3 minutes. Et quand j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu des gens qui couraient partout dans la rue, effrayés, et de l'eau qui se déversait des piscines situées sur les toits des hôtels de grande hauteur. C'était très effrayant. J'ai entendu un bâtiment s'effondrer. On dit qu'il y a plus de 40 personnes dans les décombres. C'est effroyable, mais grâce à Dieu, on n'a pas ressenti de réplique.
Isabelle Labéry, vous avez recueilli le témoignage de cet Américain donc à Bangkok. En Birmanie, la situation semble particulièrement précaire. Premier bilan très provisoire, 144 morts et près de 800 blessés dans ce pays. Et l'on ne découvre que petit à petit l'ampleur de la catastrophe.
Oui, un bilan qui va considérablement s'alourdir car un nombre incalculable de bâtiments se sont effondrés, des ponts ont été détruits, des routes se sont fissurées, notamment à Mandalay, la deuxième plus grande ville du pays, une mégalopole d'1,5 million d'habitants située à 17 km seulement de l'épicentre du séisme. Les militaires qui ont déclaré l'état d'urgence dans 6 régions ont aussi lancé un appel au don du sang.
Oui, très vite, la Birmanie a appelé la communauté internationale à l'aide. Isabelle, il faut rappeler que cette catastrophe arrive dans un pays, la Birmanie, en situation de fragilité extrême.
Oui, c'est d'abord un pays déchiré par la guerre civile depuis le coup d'état militaire qui en 2021 a renversé le gouvernement d'Aung San Suu Kyi. Face à la junte, des forces de résistance composées de groupes ethniques armés et de milices locales, une coalition qui a réussi depuis l'automne 2023 à reprendre du territoire, ce qui a un peu modifié la dynamique du conflit, même si les militaires gardent encore le contrôle de certaines zones stratégiques, notamment les grandes villes. Il y a quelques jours, ils venaient d'ailleurs de relancer à Mandalay leur loterie obligatoire pour la conscription, un système dans lequel les jeunes de 18 à 35 ans dont le nom est tiré au sort doivent rejoindre les rangs de l'armée sous peine d'emprisonnement. Les combats ont, selon l'ONU, entraîné le déplacement de plus de 3 millions de personnes, alors qu'un Birman sur 3 a besoin d'assistance humanitaire. Selon Amnesty International, les coupes imposées par l'administration américaine ont encore aggravé la situation. Ce séisme intervient au moment où la Birmanie est sans doute la plus vulnérable depuis des décennies.
Merci Isabelle Labéry. Et bien sûr, ce soir, les propositions d'aide internationale provenant des ONG ou bien de plusieurs pays se multiplient. Au Liban, l'armée israélienne a procédé à un bombardement dans la banlieue sud de Beyrouth. Le premier de cette importance depuis le début de la trêve entre Israël et le Hezbollah, il y a 4 mois. Ce bombardement serait une réponse à des tirs de roquettes qu'Israël attribue au Hezbollah, qui nie pourtant être à l'origine de ces tirs. Cet après-midi, Emmanuel Macron a dénoncé les frappes israéliennes, Christian Cheneau.
C'est au moment où Emmanuel Macron recevait à l'Élysée son homologue libanais, Joseph Haroun, qu'Israël a bombardé le sud de Beyrouth en réponse à des tirs de roquettes contre son territoire. Le président français a pointé du doigt la responsabilité de l'État hébreu, des frappes inacceptables pour lui, ajoutant qu'il allait s'entretenir avec Benjamin Netanyahou dans les prochaines 48 heures.
À ce stade, je peux vous dire qu'il n'y avait pas d'activité qui justifiait des frappes. Et donc il est absolument nécessaire que le cadre que nous avons défini, pardon, qui a été agréé par le Liban et par Israël, soit dûment respecté. Il n'a pas été respecté aujourd'hui par Israël, de manière unilatérale, et sans que nous n'ayons eu ni information ni preuve des faits générateurs ou du déclenchement. Notre conviction stratégique, et je crois que nous la partageons, je ne crois pas, je sais que nous la partageons avec le président Joseph Aoun, c'est très clairement que le non-respect aujourd'hui du cessez-le-feu, compte tenu des résultats des forces armées libanaises et de l'engagement du Liban, est contre-productif pour les intérêts de sécurité d'Israël, parce qu'elle ne fait que légitimer des actions du Hezbollah.
De son côté, le président Joseph Aoun affirme que le Hezbollah n'est pas responsable des récents tirs de roquettes contre Israël et qu'une enquête est en cours pour en déterminer l'origine.
Christian Cheneau, les négociations de paix sur le conflit russo-ukrainien restent encore très floues, tout au moins officiellement. Le président russe Vladimir Poutine a évoqué aujourd'hui une administration transitoire pour l'Ukraine sous l'égide de l'ONU, une option qui implique le départ de son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky avant toute négociation sur un accord de paix. Kiev accuse Moscou de vouloir faire traîner la guerre. La filière du cognac en France respire quelque peu. La Chine fait quelques concessions dans le différend commercial qui l'oppose à la France sur la question du cognac. Le sujet empoisonne les relations franco-chinoises depuis plusieurs mois. Pékin a lancé l'an dernier une enquête anti-dumping sur le cognac, mais aussi l'armagnac. Des mesures de représailles après la décision de l'Union européenne d'augmenter ses droits de douane sur les voitures électroniques chinoises. Ce soir, lors d'une visite à Shanghai, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, annonce que la Chine fait un geste et retarde de 3 mois l'instauration de possibles droits de douane définitifs sur le cognac. À Shanghai, les explications de Sébastien Berriot.
Dans la délégation qui accompagne le ministre français en Chine, tout le monde a conscience que la position chinoise, sur le fond, n'a pas vraiment bougé. Mais après des semaines sans aucun signe de la part de Pékin, les avancées obtenues par Jean-Noël Barrot sont tout de même notables. La première va permettre d'écouler les stocks de cognac qui étaient bannis depuis décembre des duty-free en Chine. Les bouteilles avaient disparu des magasins dans les aéroports, ainsi que sur l'île tropicale de Hainan, l'un des plus grands centres détaxés au monde. Le ministre affirme avoir reçu des assurances, le cognac devrait pouvoir faire son retour dans les duty-free chinois. Concernant l'enquête anti-dumping ouverte par Pékin, elle devait se terminer le 5 avril avec l'annonce de possibles droits de douane définitifs sur le cognac. Jean-Noël Barrot assure que la date est reportée de 3 mois.
Nous avons accueilli très favorablement cette annonce qui nous a été faite à très haut niveau. C'est une première étape qui devra être suivie d'autres étapes pour que nous puissions mettre définitivement ce différent derrière nous.
3 mois de sursis, mais pas de quoi soulager définitivement les producteurs de cognac, d'autant que pendant cette période, les mesures restrictives provisoires vont continuer de s'appliquer, à savoir une caution bancaire à payer sur toutes les importations de cognac en Chine.
Sébastien Berriot à Shanghai. Plusieurs fois annoncé, plusieurs fois repoussé, voilà enfin que la réforme de la formation initiale des enseignants est présentée par un gouvernement, en l'occurrence celui de François Bayrou, une semaine après avoir promis 4 chantiers d'ici le 15 avril, notamment dans le domaine de l'éducation. Le Premier ministre et sa ministre de l'Éducation, Elisabeth Borne, ont présenté depuis une école des Hauts-de-Seine des mesures annoncées par Emmanuel Macron l'an dernier, avant la dissolution de l'Assemblée nationale. La réforme doit entrer en vigueur dès la rentrée de septembre 2025. Et puis autre sujet abordé, l'importance de l'écrit chez les élèves. Noémie Bonin.
Oui, le Premier ministre défend une position volontariste en pointant les résultats mauvais que l'on connaît des élèves français dans toutes les études internationales. François Bayrou veut donc qu'à partir de la rentrée prochaine, je le cite, tous les élèves lisent et écrivent tous les jours.
Ça se fera dans le cadre de tous les établissements et de toutes les classes. Ce n'est pas une question de français. L'orthographe n'est pas différente selon que vous écrivez un paragraphe sur les sciences de la vie et de la terre ou que vous écrivez un paragraphe sur l'histoire.
Alors pour l'instant, on ne voit pas très bien ce que cette directive changerait par rapport à aujourd'hui, mais des précisions sont promises d'ici l'été. Un groupe de travail réfléchit autour de l'écrivain Eric Orsenna. Cette reconquête affichée de l'écrit sera prise en compte dans la nouvelle formation des enseignants que François Bayrou et Elisabeth Borne ont également annoncé, ou plutôt confirmé, car c'est le même projet qu'il y a un an, aujourd'hui remis en selle. Un concours replacé à Bac plus 3, un master ensuite professionnalisant qui alternera formation en université et stages dans les établissements scolaires, rémunérés 1400 euros en Master 1, 1800 en Master 2. Une licence pluridisciplinaire va aussi être créée, plutôt destinée aux futurs professeurs des écoles. Elisabeth Borne et François Bayrou veulent voir dans la réforme de cette formation initiale des enseignants la clé de la réussite des élèves.
L'idée est de retrouver l'esprit des écoles normales, affirme François Bayrou. Autre plan gouvernemental, il concerne la qualité de l'eau potable. Sujet désormais sensible au fur et à mesure que le changement climatique produit ses effets. La ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, a présenté une feuille de route. L'accès à l'eau devient un sujet régalien, dit-elle. Bonsoir Véronique Ribérotte.
Bonsoir.
L'objectif annoncé de la ministre est de protéger les captages d'eau les plus sensibles avec les acteurs locaux.
Et il y a encore beaucoup à faire. Sur les 33 000 captages d'eau du pays, la ministre de la Transition estime que seulement 1 500 ont été sécurisés, protégés de pollution aux pesticides et aux nitrates essentiellement. Car la dégradation de l'eau en France résulte largement d'une pollution aux pesticides d'origine agricole, avec une vraie crainte donc à l'avenir, ce changement climatique et ces hausses de température qui vont accélérer l'évaporation de l'eau et augmenter les concentrations de ces polluants. Une pollution déjà bien présente, puisqu'entre 1980 et 2019, ce sont près de 12 500 captages qui ont dû être abandonnés à cause d'une mauvaise qualité de leur eau. Ce qu'il faut éviter absolument à l'avenir, estime la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher.
Sur le territoire national aujourd'hui, il y a des endroits où plusieurs centaines de milliers d'habitants ne doivent leur eau potable qu'à un seul point de captage. S'il y a un accident, s'il y a un sabotage, s'il y a une sécheresse très forte, alors on peut être amené à le fermer. Et dans ce cas-là, la population doit être alimentée autrement. Et c'est un vrai risque que nous voulons éviter et que je souhaite éviter.
Merci beaucoup. Merci à tous.
Voilà, il s'agit de réaliser une cartographie précise pour pouvoir ensuite agir, définir des actions d'assainissement des pollutions, de réduction aussi à proximité d'utilisation de produits phytosanitaires, sans contrainte pour l'instant pour les agriculteurs qui sont invités à agir de façon volontaire. Côté financement, eh bien quelques 6 millions d'euros de crédit du plan Écosanito, la stratégie nationale de réduction des pesticides, seront mobilisés pour les captages les plus prioritaires.
Merci Véronique Ribérotte. La Société Générale a officialisé ce matin l'arrivée d'Alexis Collet, actuellement secrétaire général de l'Élysée, au poste de directeur général adjoint et président de sa banque d'investissement. À ce titre, celui qui a été le bras droit d'Emmanuel Macron depuis 2017 va intégrer le comité exécutif de la Société Générale dès le mois de juin. Marie Viennot, bonsoir.
Bonsoir.
On savait qu'Alexis Collet était sur le départ de l'Élysée et qu'il atterrirait sans doute à la Société Générale. Ce qui intrigue tout de même, c'est que cette officialisation arrive avant que la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique n'ait publié son avis sur ce transfert.
Oui, or c'est une saisine obligatoire pour les emplois les plus exposés. Les Échos affirment que la nomination d'Alexis Kohler à la Société Générale a bien été validée par cette Haute Autorité, mais son avis n'est pas publié sur son site et mes demandes d'éclaircissement sont restées lettre morte toute la journée. Même silence du côté de la Société Générale, dont on imagine qu'elle a attendu l'avis de cette Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique avant de communiquer sur l'arrivée officielle d'Alexis Kohler dans ses rangs. Rien de très transparent donc à ce stade. Si avis favorable il y a, il sera certainement avec réserve, comme pour le départ dans le privé dernièrement de Bruno Le Maire, Franck Riester ou Stanislas Guérini. Dans leur cas, l'avis stipule que les intéressés ne doivent pas rentrer en contact pendant 3 ans avec des membres actuels du gouvernement ou des administrations qu'ils ont dirigées. Alors d'abord, on se demande comment cette haute autorité peut le vérifier sérieusement. Et dans le cas d'Alexis d'Alexis Kohler, le réseau qu'il a pu constituer dans ses fonctions à l'Élysée est tel que cela aurait dû suffire à interdire ce transfert, juge Laurence Cielhomme. Elle est professeure de finance, auteure de plusieurs études et livres sur les allers-retours entre le public et le monde de la finance.
Dans une de nos plus grandes banques systémiques, arrive quelqu'un qui a un carnet d'adresses qui permet d'avoir directement accès à ceux qui sont décisionnaires, que ce soit d'un point de vue politique ou dans la haute administration bruxelloise. Enfin, ça crée de la défiance, même si les gens sont hyper honnêtes. La question, c'est pas la probité des gens. La question, c'est vraiment le soupçon que ça induit. Et ça, c'est un poison lent.
Alors on verra les limites posées à ce départ si l'avis est finalement publié, car la haute autorité peut aussi ne rien publier si elle juge, comme elle l'explique sur son site, que les circonstances le justifient, sans plus de précision.
Merci Marie Viennot. Je vous propose de nous arrêter un instant sur une technique qui révolutionne le travail de la police, la généalogie génétique, ou comment remonter jusqu'à un suspect en analysant l'ADN de ses cousins très éloignés. Bonsoir Julie Pietri.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste à la cellule d'investigation de Radio France. Cette technologie est interdite en France, jugée trop dangereuse pour nos libertés individuelles. Et pourtant, grâce à elle, la police a déjà résolu une première affaire, celle dite du prédateur des bois.
Oui, nous sommes le 13 décembre 2022. Au petit matin, des policiers se postent devant une maison de courterie en Seine-et-Marne. Ils ouvrent la porte et arrêtent un retraité de 62 ans, Bruno L. Le commissaire divisionnaire, Franck Danerolle, est sur place.
Il y a de la fébrilité parce que on regarde l'individu interpellé en essayant de deviner dans son regard, dans son attitude, si c'est possiblement lui, si on le sent accablé. Pourquoi pas un aveu spontané, mais c'est pas venu.
Bruno L. est en fait soupçonné d'être un violeur en série surnommé le prédateur des bois. 5 enlèvements et viols entre 1998 et 2008 sur de très jeunes femmes, certaines mineures.
Et à chaque fois, l'agresseur laisse son ADN.
Oui, mais cela ne permet pas pour autant de l'identifier. En 2021, Philippe Guichard tente un pari. Il est alors patron de l'OCRVP, l'Office central de police, qui a repris le dossier.
On s'est intéressé aux investigations américaines et on a sollicité le FBI pour qu'il nous aide sur ce dossier. Moi, j'ai jamais d'idée derrière la tête. J'espère simplement que les Américains vont trouver, avec leur technique qu'on connaît évidemment, des solutions pour faire parler cette trace ADN.
Et ces solutions passent en fait par la généalogie génétique.
La généalogie génétique qui est donc interdite en France. Julie, comment est-ce que ça marche ?
En fait, la police américaine puise dans des bases de données d'entreprises privées qui font leur business en vous vendant des tests ADN dits récréatifs. En résumé, vous envoyez votre ADN par la poste et on vous propose de retrouver des membres de votre famille parce que notre ADN nous lie même à nos cousins très éloignés. Donc que fait la police américaine ? Quand elle a sur une scène de crime un ADN inconnu, elle ne va plus chercher uniquement à qui cet ADN appartient, elle va chercher sa famille même éloignée. Un outil extraordinaire, estime Anne-Marie Schubert, premier procureur à l'avoir utilisé à Sacramento, en Californie.
On a eu des tonnes de succès. Presque tous les cas qu'on avait sur notre liste ont été résolus. Et parfois, je dois dire, à la vitesse de l'éclair. Si on arrive à convaincre les gens de mettre leur ADN sur ces sites, on a la capacité de résoudre 90% des crimes violents quand vous avez de l'ADN. 90%.
Et dans l'affaire du prédateur des bois, ça marche. Le FBI détecte l'ADN de Mathieu, un Brestois de 33 ans. En faisant un test, Mathieu a donc conduit indirectement son lointain cousin, Bruno L., en prison.
J'aurais jamais cru, oui, être un petit maillon dans une affaire aussi vieille. J'étais pas du tout au courant. Après, c'est un parent éloigné, avec qui je n'ai pas de lien. Il m'évoque rien du tout, donc... C'est à la fois assez fascinant et un peu effrayant.
Lui se dit heureux d'avoir permis de résoudre cette enquête, mais la méthode est critiquée. Si les policiers estiment avoir tout fait dans les règles, Emma Le Signe, l'avocate de Bruno L., n'est pas d'accord.
C'est pas parce que on fait une demande à un pays étranger et que ce pays utilise des règles qui sont interdites en France que nécessairement ça devient légal en France. Ce serait trop facile. Tout de suite, on réfléchit à un recours en nullité. J'en parle à Bruno L. Je lui explique la problématique et il m'indique qu'il ne souhaite pas déposer de requête en nullité. Lui, il avait reconnu les faits dès la garde à vue. La manière dont on l'a retrouvé presque lui importait assez peu.
Et après, Bruno L. s'est suicidé en prison. Une ordonnance de non-lieu vient d'être rendue. Il n'y aura donc ni procès ni ni débat sur l'emploi de cette technique. En attendant, selon nos informations, la police française a demandé à nouveau l'appui américain sur d'autres dossiers.
Merci Julie Pietri. Votre enquête complète est à retrouver sur radiofrance.fr. Un mot du temps après le passage d'une perturbation du nord-est au centre-est, du massif central et jusqu'aux Pyrénées. L'après-midi, le ciel deviendra plus lumineux. De l'est de la région PACA à la Corse, le ciel sera variable et surtout très venteux. Ailleurs, sur une grande partie ouest du pays, le temps sera sec, globalement bien ensoleillé, mais plus frais. Les températures maximales en baisse vont de 12 à 15 degrés, de 16 à 20 degrés dans le sud-est. C'est la fin de ce journal, préparé avec Brice Garcia, à la technique Mineta Diawara.